Quatrième et dernier temps de notre semaine de la Fabrique de l'Histoire sur l'histoire des quartiers. Aujourd'hui, nous allons demander comment les quartiers d'une ville peuvent devenir des objets d'histoire. Nous avons ouvert cette semaine sur l'histoire des quartiers avec Paul-André Rosenthal qui publie l'histoire d'un micro-quartier de Strasbourg, les jardins d'Undomar, marqué par l'eugénisme de leurs fondateurs. Puis poursuivi cette semaine par un documentaire à réécouter sur le Marais à Paris, un documentaire signé Victor Massé de l'Épinay et Véronique Samouilov, et sur le Marais, mais également son festival qui accompagna la rénovation de ce quartier parisien. Hier, nous vous parlions de la paroisse au Moyen-Âge et aujourd'hui, nous concluons cette semaine, préparée par Victor Massé de l'Épinay, par une réflexion sur l'histoire urbaine et les conditions de sa réalisation aujourd'hui avec Charlotte Worms. Elle est maître de conférence à Paris 1, au Centre d'histoire sociale du XXe siècle. Elle est auteure de « Bâtisseur de banlieue à Madrid, le quartier de la Prosperidad 1860-1936 », publié chez Créafis. Et toujours chez Créafis, eh bien, nous recevons un auteur donc d'une histoire urbaine du XXe siècle, à savoir Loïc Vatlorge, qui dans « Retour sur une ville nouvelle », sur les villes nouvelles chez Créafis, eh bien, s'interroge sur la possibilité de faire l'histoire de ces villes nouvelles quand on est un historien comme lui, professeur d'histoire contemporaine à Paris-Est, Marne-la-Vallée. Bonjour Victor Massé de l'Épinay.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous Loïc Vatlorge. Vous êtes en duplex avec nous depuis Rouen.
Oui.
Bonjour et nous remercions nos collègues de Radio France à Rouen de vous recevoir dans leur studio. Et bonjour à vous Charlotte Worms.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous vous avions invité il y a déjà quelques temps pour la parution de ce livre chez Créafis dont nous allons reparler aujourd'hui, Bâtisseur de banlieue à Madrid. Et c'était dans une semaine consacrée à la micro-histoire et tout compte fait. Eh bien, on se demande si micro-histoire urbaine, par exemple, comme vous le faites ou comme le font des gens comme Isabelle Bacouche qui va d'ailleurs publier bientôt, toujours chez Créafis, un autre livre consacré à l'histoire du Marais. Eh bien, c'est de la micro-histoire. Est-ce que c'est de l'histoire urbaine? Enfin, en gros, comment qualifier un tel travail? Et d'ailleurs, faut-il le qualifier?
Alors, la question, je pense, est aussi, faut-il la qualifier? C'est-à-dire que je pense que les étiquettes sont toujours réductrices et, au fond, on fait tous de l'histoire. On peut dire de l'histoire sociale, mais au sens large, de l'histoire sociale. Je pense que la micro-histoire a changé l'appropriation française, les réinterprétations françaises de la micro-histoire italienne ont un peu changé la manière de faire de l'histoire urbaine, et pas seulement l'histoire urbaine.
Et pourquoi justement? Parce que tout compte fait, on avait un très bon exemple avec Paul-André Rosenthal lundi, dans son formidable livre qui vient de publier donc au Seuil, qui s'intitule « Destin de l'eugénisme ». Voilà, on lit le titre, on se dit « Destin de l'eugénisme », il va nous parler de l'histoire de l'eugénisme, et puis en fait il nous parle d'un quartier de Strasbourg, inventé par un eugéniste français, et Alfred Dachert, et au bout du compte, on voit se déployer pendant un siècle toute cette question de la gestion des populations, de leur amélioration, comme on l'imaginait dans l'eugénisme français, à partir de l'exemple d'un quartier urbain, d'une création de lotissement, pourrait-on dire.
Alors, je pense que la micro-histoire a trouvé des tas de domaines d'application, de mise en œuvre, mais c'est vrai que elle se prête particulièrement, je trouve, en tout cas, à l'histoire urbaine. En cela que il est évident, et le quartier dont on va parler aujourd'hui en est un exemple, est une sorte d'unité spatiale parfaite pour mettre en œuvre, pour expérimenter la micro-histoire.
Alors, vous voulez dire parfaite parce que il permet à un étudiant en histoire ou une étudiante en histoire de pouvoir, parce que ça n'est pas infini comme sujet, de pouvoir épuiser un sujet dans les 4 ou 5 années qui lui sont demandées pour faire sa thèse, par exemple.
Alors, la mienne a duré un petit peu plus longtemps, mais oui. Parce que cette unité spatiale petite et cette unité sociale petite donne la possibilité de poursuivre le rêve de l'épuiser, comme vous le dites, et donc d'examiner de manière d'observer et de décrire de manière intensive cette réalité dans toute sa complexité et au plus proche du réel. Alors après, mais je pense qu'on y reviendra, sur justement cette manière de faire de l'histoire du quartier, comment l'approche micro-historique, vous le disiez avec l'exemple du dernier livre de Paul-André Rosenthal, modifie et change la manière dont on a fait l'histoire du quartier jusque-là, puisque...
Oui, alors évidemment, il y avait d'autres façons de faire l'histoire des quartiers, et en particulier ce qu'on appelait l'histoire locale. Et effectivement, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a dans cette appréciation de ce qu'était l'histoire locale, qui était pourtant extrêmement valorisée dans l'historiographie des années 70, un petit peu de distance, je dirais pas du mépris, mais un peu de distance de certains en disant on ne fait pas d'histoire locale, on fait de la micro-histoire de quartier. Brièvement, quelle différence, Charlotte Vin ?
Alors, pour être très très brève, je pense que l'histoire, les enjeux d'une histoire locale sont à l'échelle de son objet, c'est-à-dire à l'échelle du quartier. Il s'agit d'établir des faits à l'échelle du quartier qu'on observe. Alors que la micro-histoire, enfin la micro-histoire d'un quartier, a pour objectif de
se saisir du quartier,
de prendre le quartier comme laboratoire.
Et donc d'en tirer toutes les possibilités.
D'en tirer toutes les possibilités. Alors, dans mon cas, en prenant un quartier de Madrid, qui n'est pas non plus le quartier le plus connu de Madrid, et en ayant moi-même grandi et travaillé en France, il est évident que l'établissement des faits sur la prospéridad n'était pas pertinente. Il fallait trouver la pertinence ailleurs.
On va en parler dans un instant. J'entends Loïc Badlorge qui est en duplex avec nous depuis Rouen, qui trépigne ou presque à l'idée de réfléchir à cette question-là. Alors vous, c'est étrange parce que vous êtes historien des villes nouvelles. Vous avez presque d'une certaine façon établi cette histoire urbaine du temps présent que vous voulez faire en tant qu'historien. Vous avez vraiment inventé presque cette question et ce sujet, évidemment sous la houlette et la tutelle d'Annie Fourcault, qu'il faut savoir. Absolument. Parce qu'elle avait vraiment été pionnière dans ce domaine-là. Mais néanmoins, vous êtes intéressé à ces villes nouvelles et on se dit, les villes nouvelles, quand on s'y intéresse, on ne s'y intéresse pas de façon micro-historienne, on s'y intéresse forcément en imaginant ce qu'a été un plan d'ensemble et donc beaucoup plus largement que la question des simples quartiers de ces villes nouvelles. Comment peut-on faire ce changement d'échelle, pourrait-on dire, que vous pratiquez dans votre livre Retour sur les villes nouvelles, une histoire urbaine du XXe siècle, en s'intéressant à la fois à cette ambition démesurée d'un pays de loger au mieux ses habitants dans les années 60 et 70, et de l'autre côté, en s'intéressant à des expérimentations hyper locales qui s'insèrent, pourrait-on dire, dans cette histoire globale.
Alors, de mon point de vue, en fait, il n'y a pas forcément antagonisme entre l'histoire des quartiers et puis une histoire globale comme celle qu'on a pu produire autour des villes nouvelles. Je pense que c'est simplement une tendance de l'historiographie, de l'histoire urbaine du contemporain depuis une vingtaine d'années, qui, pour se saisir en fait de l'histoire récente, celle de l'après-45, a été obligée en fait d'en passer par les politiques publiques, c'est-à-dire d'en passer par ce qu'on pourrait appeler un préalable à une histoire plus sociale et une histoire plus localisée. Donc, les villes nouvelles sont qu'un exemple parmi d'autres, parce que la reconstruction étudiée par Daniel Volman, les grands ensembles étudiés par Annie Fourcault, et puis même la politique de la ville étudiée par Thibaut Tellier en sont d'autres exemples où il fallait en fait que les historiens se saisissent d'une échelle plus vaste pour peut-être comprendre un peu tous les enjeux qui avaient été autour de la construction.
Oui, parce que la place de l'État, et on en discutera dans un instant avec Charlotte Vorm, c'est considérable dans cette appréhension de cette histoire urbaine, parce que c'est l'État qui, la plupart du temps, établit les plans, imagine les plans et les développe en collaboration évidemment avec les élus locaux.
Alors oui, plutôt que de parler d'État, on a plutôt tendance aujourd'hui à parler de pouvoir public, parce que on s'est rendu compte que même dans le cas d'une politique très très intégrée et très étatiste comme les villes nouvelles, les élus locaux avaient eu leur mot à dire. Mais ceci dit, pour revenir sur la question du quartier, il est clair que si on veut avancer sur ces objets-là, il faut descendre à l'échelle du quartier. Et dans le cas des grands ensembles, par exemple, la thèse de Gwenaëlle Le Goulon, qui est une thèse sur la genèse de la politique publique des grands ensembles, elle est descendue au niveau des quartiers, de ces quartiers grands ensembles de la région parisienne, mais aussi des quartiers de grands ensembles de province, pour en fait étudier la manière dont ces grands ensembles étaient arrivés sur le terrain, la manière dont les habitants se les étaient appropriés. Et ce travail-là, il faudrait absolument le conduire sur les villes nouvelles, parce que si les villes nouvelles sont des projets de très très grande envergure, ce sont aussi concrètement des quartiers successifs qu'on a juxtaposés, et donc l'échelle du quartier est parfaitement pertinente. J'aurais souhaité également revenir sur l'amorce du débat autour de la micro-histoire, et puis de l'articulation que Charlotte faisait entre micro-histoire et histoire locale. Il me semble que dans le cas de la prospéridad, c'est tout à fait évident qu'il y a une imperméabilité entre les deux conceptions de l'histoire. Mais dans d'autres ouvrages récents publiés en fait sur des quartiers, je pense en particulier à l'ouvrage monumental de Jean-Louis Robert sur Plaisance près de Montmartre.
Il aurait dû être avec nous aujourd'hui, vous ne pouvez pas.
Donc en tout cas, son livre est un livre, à mon sens, aussi important que le livre de Charlotte Worms sur la prospéridad. Dans ce cas-là, il y a une perméabilité entre l'histoire locale que pratique Jean-Louis Robert et puis la micro-histoire. Et ça, justement, je crois que c'est relativement important, parce que ce que nous apporte l'histoire locale, donc certes, Charlotte l'a parfaitement dit, c'est un objet relativement limité, mais elle nous apporte quand même une archéologie des quartiers qui est tout à fait précieuse pour pouvoir justement creuser tout ce qui intéresse vraiment les historiens, c'est-à-dire les liens sociaux, la manière dont les habitants s'adaptent aux modifications du quartier.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, Loïc Vadelorge et Charlotte Worms, on sent bien à vous entendre qu'il y a une question d'articulation entre l'échelle de l'étude et les sources, puisque à chaque échelle correspondent un certain nombre de sources. Loïc Vadelorge, un grand ensemble, en effet, c'est pensé par l'État, par des politiques publiques, les sources vont être plus large que celle de la ville nouvelle ou du quartier. Charlotte Worms, en revanche, quand on parle d'un quartier comme celui de la prospéridad, qui a une naissance pas spontanée, mais en tout cas hors d'une politique publique, la question des sources est tout à fait différente. Là, dans la préface de votre livre, Gérard Chastagnaret explique que vous constituez un objet d'étude, ce qui par définition devrait, je le cite, échapper au regard administratif et donc ne pas laisser de source. Et il dit que c'est une histoire finalement de la transgression. Alors qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que ce que vous avez fait, c'est une histoire de la transgression ? Et comment est-ce que on articule ces sources beaucoup plus larges que celles du quartier, ou bien au contraire très localisées mais très peu nombreuses ?
Il faut aussi que vous nous précisiez, pour nos auditeurs qui ne le connaissent peut-être pas, où se situe ce quartier de la prospéridad et quand ça commence? Ça commence en 1860 dans votre livre publié chez Créafis, Charlotte Worms.
Alors, beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'est une histoire de la transgression? Je vais répondre sans répondre, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça, c'est pas déplaisant comme comme qualification, donc je veux bien. Mais oui, alors pourquoi c'est une histoire? Cette histoire n'est pas le produit, en tout cas pas le produit direct. En fait, c'est aussi le produit, c'est bien là le cœur du sujet, mais d'une politique publique, puisque ce quartier qui se situe au nord-est de la ville de Madrid, hein, en direction de l'aéroport, pour ceux qui connaissent la ville, est l'espèce de conséquence involontaire d'un projet d'urbanisme, d'un projet d'extension de la ville de Madrid, typique de l'urbanisme espagnol du 19e siècle. On le connaît en général, le damier de Barcelone, on connaît parfois moins le damier, cette extension en damier autour de Madrid. Donc
le plan Castro de 1860.
Le plan Castro de 1860 qui prévoit l'extension de la ville selon un plan en damier et qui donne lieu à des transactions, enfin une espèce d'envolée de transactions spéculatives à caractère spéculatif sur le sol de cette zone d'extension, et donc repousse plus loin les lotissements non viabilisés à destination d'une population ouvrière, enfin au faible, qui est l'exutoire du problème de logement de cette ville qui croît comme les autres villes européennes à cette époque. Donc voilà, donc on le voit, on est bien dans une conséquence au fond d'une. On ne peut pas comprendre l'histoire de ce quartier, et je crois qu'on ne peut comprendre aucune histoire si on ne met pas en relation ce qui se passe à cette échelle avec ce qui se passe à l'échelle de la ville, voire de l'État. Alors. Peut-être avant, parce que vous m'avez posé plusieurs éléments, avant de parler des sources, peut-être revenir un instant sur ce que disait Loïc Vadelorge sur l'histoire locale, micro-histoire. Évidemment, je suis tout à fait d'accord que les limites, les différences ne sont pas toujours aussi nettes. En revanche, je pense que dans, si on veut faire un peu d'historiographie, entre l'histoire locale et l'histoire, la micro-histoire d'un quartier tel que j'ai essayé de la faire, il y a toutes les monographies de quartier des années 80. Enfin, il y a quand même eu un style historiographique de la monographie de quartier qui n'était pas des histoires locales, même si on établit toujours des faits à l'échelle locale. Hein. Je pense, la première et enfin moi que je trouve formidable, hein, c'est le livre de Jacques May sur Belleville, hein, si on prend l'historiographie française, parce qu'évidemment il y a des précédents dans d'autres pays. Camberwell de Dyas en Angleterre, et puis toutes les monographies des années 80, celle d'Annie Fourcault sur Bobigny, celle de Burdi sur le quartier du Soleil à Saint-Étienne. Donc il y a un genre. Je pense que il y a aussi une différence entre cette manière dont on a fait de l'histoire du quartier et celle qu'on peut la faire aujourd'hui, qui est précisément dans le jeu d'échelle.
En deux mots, toutes ces monographies de quartiers étaient très axées sur des quartiers, on va dire, populaires.
Absolument.
Et ce genre est tombé en désuétude, finalement, dans les années 90. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots pourquoi? Et pourquoi vous, au début des années 2000, vous avez choisi de...
Alors, par inconscience, évidemment, hein, mais après, chemin faisant, le sens, on trouve le sens. Mais pourquoi on s'est intéressé aux quartiers populaires dans les années 80? Alors, vous avez complètement raison. Les monographies de quartiers sont... essentiellement des quartiers, des monographies de quartiers populaires, parce qu'on y cherchait le populaire, c'est-à-dire au moment de la crise du Parti communiste, du déclin des banlieues rouges des quartiers populaires parisiens en phase, enfin attaqués, qui venaient d'être attaqués par les bulldozers. On a la nostalgie, enfin on s'intéresse à la formation de ces quartiers populaires.
Et ces identités locales qui correspondent à ces quartiers.
Oui, alors on cherche à la fois la politisation, puisqu'il y a quand même cette question de la banlieue rouge, hein, qui est, et puis on cherche un peu dans le prolongement de l'histoire sociale anglaise, un peu marquée par l'anthropologie, on cherche le populaire, on cherche le peuple de Paris au XIXe siècle, on cherche cette culture populaire qui a cette expression politique en France, essentiellement dans le Parti communiste.
Alors, il y a une sorte de creux de la vague, et vous appartenez à cette surfeuse qui, vous êtes une surfeuse qui remontait sur la vague avec votre planche de surf, et vous repartez dans un autre sens en enrichissant cette expérience des quartiers, cette expérience urbaine et cette histoire urbaine, d'autres choses, donc cette approche micro-historique.
Alors, je ne sais pas s'il y a une vague. Faudrait en sociologie, oui, c'est évident. En histoire, je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait un nouveau genre. Peut-être que ça restera un cas isolé. En tout cas, si j'essaye de voir la différence effectivement, je pense que mon projet, mes questions dépassent. Dépasse plus l'échelle de quartier que ces monographies-là. Et dans la pratique, et Gribaudi l'avait bien raconté à propos de son quartier de Turin, quand il a essayé lui aussi de faire sa monographie de quartier, la question, ces histoires que j'ai évoquées sortent assez peu de leur quartier. Le traite un peu de manière isolée, hors de toute évidence. D'abord, la population population des villes comme des campagnes d'ailleurs ne cesse de bouger. Donc, si l'identité d'un quartier, bon, on pourra revenir sur ce mot que j'aime pas du tout, identité, parce qu'il est, enfin voilà, il a tendance à réifier des réalités qui, à mon avis, le sont pas. Mais si ça se crée à travers une population et ses pratiques, le fait qu'elle bouge et qu'elle se renouvelle pose problème. D'une part, et d'autre part, les quartiers comme les communes de banlieue font partie d'un tout, c'est une évidence, et on ne peut pas les comprendre. Enfin, toute leur réalité ne s'explique que dans l'articulation avec ce tout.
Alors évidemment, s'il y a des populations qui bougent, c'est bien celle des villes nouvelles, en l'occurrence, le Guivat de l'Orge, puisqu'elles sont nouvelles, elles viennent d'ailleurs pour pouvoir s'y installer. Peut-être pouvons-nous insister sur le fait qu'effectivement, il y a ces volontés croisées, disiez-vous tout à l'heure, des autorités publiques, qu'elles soient nationales ou locales, de créer et de faire vivre cette nouvelle ville et donc ces nouveaux quartiers. Mais évidemment, avec peut-être une différence, ce dont Charlotte Worms nous parle, c'est de quartiers auto-administrés qui se créent parce qu'ils ont été rejetés aux marges de la ville et de Madrid et qui vont s'organiser, pourrait-on dire. Là, on pense l'organisation pour eux, à ses habitants. Est-ce que ça fait une grande différence, Loïc Badelange?
Oui, je pense qu'il y a une différence très importante, d'autant qu'en fait, sur les ouvrages dont on a parlé, à la fois la Prosperidad et puis le quartier de Plaisance, quand les historiens les saisissent depuis le 19e siècle, ils sont sur des problématiques radicalement différentes de celles des villes nouvelles qu'on saisit en fait, grosso modo, au milieu des années 1970. Alors, ceci dit, c'est effectivement les habitants des villes nouvelles qui arrivent dans ces quartiers dans les années 70, on pense pour eux le quartier, on pense le logement, on pense la manière dont ils vont circuler dans la ville, on pense les équipements socio-culturels, etc. Mais on pense aussi, parce que c'est l'esprit de l'époque, hein, c'est l'esprit d'une époque qui lie Henri Lefebvre et le droit à la vivre, à la ville, on pense à les associer à la fabrication de la sociabilité de ce quartier. Et donc, on a des groupes de pré-animation culturelle qui essayent d'aider les habitants à créer leurs propres associations.
Parce qu'on les considère comme des pionniers, en fait, c'est ça?
Oui, alors on les considère comme des pionniers et eux-mêmes s'approprient ce terme de pionnier, hein, comme les travaux de l'écomusée de Saint-Quentin en Yvelines l'ont bien démontré. Et donc ils vont rapidement en fait former ces associations qui sont d'ailleurs pas simplement des associations culturelles, mais aussi et d'abord des associations de défense, hein, des intérêts de ces habitants, en particulier la lutte contre la malfaçon d'un certain nombre d'immeubles qui ont été construits trop vite, à Évry par exemple ou au Vaudreuil. Et puis ce qui est intéressant dans ces associations de quartiers qui sont très vivantes en ville nouvelle, mais pas simplement en ville nouvelle, hein, elles sont aussi vivantes ailleurs, c'est qu'en fait elles vont très rapidement se politiser et jouer un rôle dans les basculements politiques des élections municipales de 1977 en particulier.
Oui, parce qu'en fait on prévoit une certaine attitude de ces habitants et forcément la Gen-Z, leur façon de concevoir leur propre action, va changer ce qu'on a prévu pour eux, va faire en sorte qu'ils ne sont pas exactement là où on les attend, là, il va de l'orge.
Oui, sans doute, mais je pense que les aménageurs n'étaient pas totalement dupe de ce qui pouvait arriver. On était quand même sur des communes en grande partie rurales, avec une population de maraîchers, une population d'agriculteurs, quelques périurbains, mais dans les années 60-70, il y en a encore relativement peu à la distance à laquelle on se situe par rapport à la capitale. Donc, globalement, il était clair qu'il y aurait des basculements politiques importants. Et en fait, il y a quand même des partis politiques qui ont tablé, qui ont misé dessus, et c'est le Parti Socialiste qui a sans doute tirer le mieux son épingle du jeu dans un certain nombre de configurations. Mais on connaît aussi aujourd'hui assez bien la généalogie en fait de ces victoires municipales, soit de 77, soit de 1983, qui passent vraiment par les associations socioculturelles et leur manière en fait de s'approprier les équipements mis à leur disposition.
Parmi eux, effectivement, on peut se souvenir de Jean-Marc Ayrault ou d'autres élus de ces années-là qui, évidemment, depuis sont devenus des personnalités très centrales de la politique française. On va faire une petite pause en écoutant du jazz, parce que ça nous fait plaisir, parce que ça fait plaisir à Véronique Samouilov, notre réalisatrice, parce que ça me fait plaisir d'écouter Nina Simone, Central Park Blues.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Et Victor Massé de l'Épinay, et Charlotte Worms, et Loïc Vadelorge pour une émission qui conclut notre semaine consacrée à l'histoire des quartiers dans la Fabrique de l'Histoire, autour de la possibilité pour l'historien et pour l'historienne de d'appréhender justement cette échelle du quartier. Vous nous disiez, Charlotte Worms, avant d'écouter Nina Simone pour ce Central Park Blues, que ce qui était intéressant, c'était justement ce jeu d'échelle. Alors, nous avons avec nous un géographe éminent, à savoir Victor Massé de l'Épinay, que nous intégrons même des géographes dans l'équipe de la Fabrique de l'Histoire. Cette question du jeu d'échelle, c'est une question qui a été travaillée à la fois par des gens comme Jacques Revel, mais aussi par les géographes et de la nouvelle école géographique française autour d'espace-temps, par exemple. Cette question est importante, justement, du jeu d'échelle. Qu'est-ce qu'on entend par jeu d'échelle quand on travaille sur un quartier comme la Prosperidad à Madrid entre 1860 et 1936, Charlotte Worms?
Eh ben, alors un quartier, c'est un mot très polysémique, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si on en reparlera, mais en tout cas, à minima, c'est une division de la ville. Donc c'est une partie d'un tout. Ce que je voulais dire par là, et ce que j'ai essayé d'apporter dans ce livre, c'est entre autres choses, c'est le fait que la réalité, les caractéristiques propres à ce petit objet ne se comprennent, ne s'expliquent, ne se fabriquent que en relation avec le tout de la ville d'une part, et donc l'échelle de l'ensemble de l'espace urbain, de l'agglomération urbaine, et puis le tout politique qui préside à ses destinées malgré tout, qui le gouverne et qui s'entend à la fois à l'échelle, alors dans le cas de Madrid, municipale et nationale.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, Loïc Vadelorge, pour ces questions d'échelle, justement, avec les villes nouvelles, ça se pose peut-être de façon encore plus aiguë. On a l'impression, on peut avoir l'impression que toutes les décisions, tout ce qu'on étudie, c'est quelque chose qui est pensé à l'échelle nationale ou à l'échelle au moins régionale, et que finalement le quartier, la ville nouvelle, ne serait que le sujet d'étude de comment s'appliquent ces politiques à cette échelle. Si on fait ça, est-ce que, ma question est la suivante, est-ce que étudier une ville nouvelle ou la ville nouvelle d'à côté, finalement, ça donne les mêmes résultats?
Alors, il y a plusieurs questions, en fait. Tout d'abord, moi, je voudrais revenir sur le terme d'articulation, qui est un terme clé pour comprendre aujourd'hui la renaissance ou le regain d'intérêt des historiens pour le quartier. Et c'est un terme qu'on va trouver aussi bien dans l'introduction du livre de Charlotte Worms que dans l'introduction du livre de Jean-Louis Robert. Et effectivement, c'est un peu la même chose pour les villes nouvelles ou pour des objets plus contemporains de la ville. On peut pas les penser avec une seule échelle de référence, et penser les villes nouvelles à l'échelle nationale, c'est aujourd'hui totalement insuffisant. Les travaux qu'on conduit actuellement essayent en fait d'articuler plusieurs échelles, donc des échelles de quartiers, parce que les premiers quartiers qui ont été construits dans les années 60-70 dans les villes nouvelles sont des quartiers qui ont depuis subi des rénovations urbaines, et donc ces rénovations, on les a bien conduites à l'échelle du quartier et pas à l'échelle de la ville. Donc on revient à cette échelle plutôt local, et donc ça permet de repenser totalement les choses. Et puis par ailleurs, on pense aujourd'hui aux connexions, donc l'articulation avec l'international, parce qu'on s'aperçoit que cette expérience qui a été un peu exceptionnelle, on parlait d'opérations d'intérêt national au début des années 80, eh bien elle a suscité en fait des circulations internationales qu'on est en train actuellement d'étudier pour voir un peu jusqu'où elles ont pu aller et en quoi ces villes nouvelles ont pu servir à un moment donné de modèle.
Victor Massé-Lépine. Oui, continuez, excusez-moi, je vous ai interrompu.
Oui, donc en fait, quelque part, l'autre question de Victor Massé, c'était de savoir si en fait ces quartiers étaient finalement identiques, et si quand on étudiait le quartier par exemple des Pyramides à Évry ou le quartier du Monde Est à Noisy-le-Grand, on trouvait les mêmes choses. Donc là, très clairement, la réponse est non. Parce que si les politiques ont pu être à un moment donné comparables, elles ont été très très tôt territorialisées, c'est-à-dire prises en charge par des équipes locales, et donc elles ont dû tenir compte des configurations du terrain, des configurations politiques. Et en fait, ces quartiers ne se ressemblent pas. Et on aurait bien aujourd'hui du mal à expliquer ce que c'est qu'un style ville nouvelle ou un urbanisme de ville nouvelle, tellement finalement la configuration, la morphologie des quartiers est différente, et tellement en fait l'histoire aussi du peuplement, l'histoire de la population est différente. Donc si on veut avancer, je termine, si on veut avancer, il faut vraiment aujourd'hui redescendre à cette échelle locale. Et c'est d'ailleurs ce que font finalement finalement nos collègues géographes quand ils travaillent par exemple sur un thème comme habiter l'Est parisien, c'est un thème qui a été développé à l'Université de Marne-la-Vallée ces dernières années.
Oui, alors ça veut dire aussi, Loïc Vadelange, qu'il faut s'intéresser à la, par exemple, la création du... Alors, je sais que Charlotte Worch n'aime pas ce terme, d'une identité de quartier. Enfin, en gros, de la façon dont des gens s'approprient le territoire au point de se dire de telle ou telle cité ou de tel ou tel endroit et comment, au bout du compte, ils ont conçu qu'ils appartenaient à ce morceau de ville que nous décrivait Charlotte Worch à propos de la Prosperidad de Madrid.
Bah, je vais avoir les mêmes prévenances que Charlotte Worch par rapport au terme d'identité, et ça vous surprendra pas. C'est un terme qui est aujourd'hui tellement piégé par le débat politique que les historiens ont bien du mal à s'y aventurer.
Et on le remplace par quoi, alors, justement? C'est bien, c'est intéressant, mais on dit quoi à la place?
Disons que là, je reprendrai peut-être la proposition de Jean-Louis Robert par rapport à Plaisance. Lui, il dit qu'en fait, il veut faire une anthropologie historique du quartier de Plaisance en l'articulant avec l'histoire de Paris. Et bon, si évidemment identité lui convient pas non plus, il va parler quand même de culture de quartier parce que il s'agit pas forcément de le remplacer. Il s'agit de savoir si en fait ces questions de culture sont pertinentes pour l'historien. Et très clairement, elles le sont puisque le quartier à un moment donné va bien se nommer, il va bien à un moment donné revendiquer un nom de quartier et éventuellement retourner des stigmates si le quartier est stigmatisé. Donc il y a une mémoire du quartier qui s'instaure, il y a tout un travail social de mémoire qui se fait autour des sociétés savantes par exemple. Et donc ça, ce sont très clairement les objets d'histoire, on ne peut pas les mettre de côté à condition effectivement de ne pas considérer que l'identité est forgée une fois pour toutes et qu'elle ne bouge plus. Et donc là, je ne peux qu'être totalement d'accord avec ce que Charlotte disait tout à l'heure, à savoir qu'en fait, les populations bougent et avec elles bougent également les représentations du quartier.
Victor Massé de l'Épinay.
Alors, ce qui est très intéressant chez Jean-Louis Robert avec son quartier de Plaisance, c'est qu'il fait une distinction peut-être entre l'existence d'un imaginaire de quartier et l'existence d'une symbolique du quartier. Alors lui, pour son quartier, il y a un imaginaire qui existe, qui est très fort, très prégnant, mais par contre une charge symbolique, enfin une existence symbolique quasiment nulle pour le quartier qu'il a étudié. Est-ce que ça, c'est une distinction que vous pouvez prendre en compte dans vos quartiers respectifs, Charlotte Worch?
Moi, Vadelange. Je veux bien revenir quand même sur ce mot identité et par quoi faut-il le remplacer. Je disais tout à l'heure que le mot quartier est très polysémique et derrière identité, on parle à la fois de représentation collective, donc la symbolique, pour reprendre la terminologie, moi je parlerais plutôt de représentation extérieure même, la symbole, alors on a des représentations collectives typiquement de Belleville, qui est une espèce de d'archétype du quartier populaire parisien dans les mémoires et dans l'histoire urbaine. Le sentiment d'appartenance. Alors en histoire, on n'étudie pas les sentiments des gens. On étudie éventuellement ce qu'ils en disent ou la manière dont ils peuvent l'exprimer, c'est-à-dire les affiliations à des espaces géographiques locaux. Je suis de tel endroit, qui est un deuxième point. Et quelle que soit la manière, enfin qu'on regarde l'une ou l'autre, les représentations ne tombent pas du ciel. Hein. Je viens d'une histoire sociale dure, comme je pense Loïc Vadelange et la plupart des gens qu'on a cités ici. Elles ne tombent pas du ciel, c'est-à-dire qu'elles s'ancrent dans des réalités sociales. La question est de savoir si derrière les représentations collectives de Belleville, par exemple, dans quoi s'ancrent-elles? Donc, est-ce qu'elle s'ancre dans la réalité d'une société à l'échelle du quartier, c'est-à-dire un microcosme? Est-ce qu'il y a-t-il une organisation locale? Question qui a passionné les sociologues de Chicago. Je pense notamment au magnifique livre sur un quartier, Street Corner Society, de William Footwright. Donc, il y a une qui est justement enquête sur cette organisation locale et cette organisation sociale locale qui, à minima, qu'on peut exprimer à minima, comme des formes de comme une socialisation de voisinage. C'est la question de la socialisation de voisinage qui produirait peut-être une société, dans certains cas, avec des caractéristiques propres, caractéristiques démographiques, caractéristiques politiques, etc.
Mais le plus difficile, évidemment, et c'est là où vous tiquez tous et toutes sur le terme d'identité, c'est que cette caractérisation n'est pas figée. C'est-à-dire, c'est que si elle est vraie à un instant T, deux ans plus tard, cinq ans plus tard, dix ans plus tard, elle n'a plus rien à voir et elle devient une représentation d'un imaginaire collectif que l'on se raconte et qu'on peut se raconter encore 50 ou 60 ans plus tard. Je suis d'un quartier populaire, je me suis installé dans un quartier populaire quand ce quartier n'a plus rien de populaire, en l'occurrence, par exemple.
Je pense qu'il faut comprendre que les représentations s'ancrent dans des réalités, mais qu'en même temps, il faut savoir ce qu'on étudie. Si on étudie justement les formes de la socialisation, des caractéristiques propres à un moment T d'une population ou les représentations collectives. Et pour répondre à votre question, il y a des temporalités propres à chacune de ces réalités historiques et le temps des représentations n'est pas le même que le temps social ou le temps politique.
Loïc Vadelange.
Oui, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit et je pense que le rôle des historiens, c'est pas forcément de travailler sur ces identités, mais c'est par contre de travailler sur les vecteurs, les groupes sociaux qui les portent. Avant de travailler sur les villes nouvelles, j'avais travaillé en fait sur l'histoire culturelle de la ville de Rouen et de son agglomération pendant la période de l'entre-deux-guerres et j'ai eu l'occasion de trouver des archives de comités de quartier et effectivement c'est extrêmement intéressant de descendre à cette échelle-là pour voir un peu comment une série de représentations circulent à travers ces comités de quartier et derrière les rattacher à des réalités sociales, à des enjeux, à savoir quels sont les groupes sociaux qui portent ces comités de quartier. Donc je pense que c'est en fait juste un déplacement hein, que propose l'historien. C'est pas en fait refuser de parler des identités, mais c'est en fait d'en parler de manière appropriée et d'en parler avec les méthodes des sciences sociales.
Juste, je voulais rebondir sur ce que disait Loïc Vadelange en parlant des représentations qui sont véhiculées par les comités de quartier. La représentation est aussi une arme, enfin c'est aussi un outil auquel on recourt à diverses fins, à des fins politiques, etc. Et je pense que c'est un peu ça dont il était question.
Dans la Prosperidad de votre livre publié chez Créafis, tout de même, une des questions, c'est quand on vous entend, on se dit, voilà un exemple parfait, Loïc Vadelange, de l'historien qui ne reste pas calé sur sa pure discipline d'historien, qui lit les anthropologues, qui lit les architectes, les urbanistes et leurs pensées, qui lit les sociologues, évidemment. En gros, qui fait la synthèse de toutes les sciences sociales à partir de cet exemple de l'histoire urbaine et en particulier de cette histoire des quartiers, Loïc Vadelange.
Mais là, je pense que c'est pas propre à mon travail. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des historiens en fait acceptent ce dialogue disciplinaire.
Oui, mais il y a des objets qui sont peut-être plus utiles, plus présents, plus simples à manier, enfin plus intéressants d'une certaine façon pour pouvoir justement faire converger toutes les sciences sociales vers cet objet.
C'est discutable. Je pense que même des historiens de la ville du Moyen-Âge ou de l'époque moderne peuvent mobiliser des travaux d'anthropologues.
Je suis d'accord. Je parlais pas de l'exemple de l'histoire urbaine, mais par rapport à d'autres champs de l'historiographie ou de l'histoire, effectivement, c'est vrai que cette histoire urbaine a cette capacité-là à mobiliser tout un tas de ressources que peut-être d'autres champs ne sont pas propres à même de mobiliser. C'est ça que je voulais dire.
Oui, sans doute. Là, vous avez raison. L'une des difficultés, en fait, quand on fait de l'histoire urbaine du contemporain, hein, c'est-à-dire de l'après Deuxième Guerre mondiale, des Trente Glorieuses, voire de la fin du XXe siècle, c'est qu'effectivement, on arrive après la bataille en quelque sorte. C'est-à-dire que, avant nous, sur ces objets urbains, se sont déjà penchés des quantités de sociologues, d'ethnologues, de géographes. Et donc, il y a un vrai problème, en fait, de corpus bibliographique. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, pour certains historiens, je dirais assez durs, ils considèrent que l'histoire n'a pas été faite et qu'il faut donc reprendre tout à zéro. Pour d'autres dont je fais partie, on ne peut pas s'abstraire de la lecture à minima de ces travaux pour comprendre un petit peu comment ces chercheurs ont appréhendé les objets et qu'est-ce qu'un historien peut faire 20 ou 30 ans après ces travaux-là, quoi. Donc ça me paraît complètement évident qu'il faut revenir là-dessus. Et en fait, en même temps, ces travaux, évidemment, et ça c'est assez classique, deviennent source. Hein, et je pense en particulier à toute la production de la sociologie urbaine des années 60 et 70.
Ah, bien sûr.
Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Un extrait de la bande originale de Kika, de Pedro Almodovar, Luz de Luna, par Vargas Chavelia. Charlotte Worms, vous avez évoqué tout à l'heure l'idée que les historiens ne travaillaient pas sur les sentiments, mais sur le vécu. Et le vécu, c'est aussi le vécu de ceux qui habitent ces quartiers, leur socialisation, ce qu'ils en disent. On a expliqué tout à l'heure la question des représentations. Et vous vouliez revenir sur ce point-là?
Oui, alors je sais pas si certains historiens travaillent sur les sentiments. Ce que voulais dire, je crois,
l'histoire des émotions.
Non, mais ce que je veux dire, les historiens observent des faits. Donc ils ne peuvent pas, on n'a pas la faculté d'aller examiner le fort intérieur des gens. Contrairement aux sociologues, on n'a pas toujours, enfin en tout cas, on n'a pas la possibilité de les interroger. Ce qu'ils ressentaient dans le passé. Donc en fait la question c'est celle de la socialisation, c'est celle de la manière dont les liens se tissent. Au cœur de la notion de quartier, il y a cette idée de voisinage et de socialisation de voisinage, de liens qui se tissent au sein d'une société. C'est une question qui intéresse beaucoup les sciences sociales et qui est extrêmement difficile à étudier en histoire.
Pourquoi elle est difficile?
Parce que c'est compliqué d'abord il faut se donner des critères. Qu'est-ce qu'on prend comme lien, qu'est-ce qu'on considère comme type de lien, et observer les sources pour observer ça sont peu nombreuses. Et je voulais revenir sur ce que disait la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Loïc Vadelorge et l'intérêt de discuter ensemble du quartier que j'ai étudié et des villes nouvelles qu'a étudié Loïc Vadelorge. C'est que dans les villes nouvelles qui arrivent après les grands ensembles, j'espère. On voudrait fabriquer du quartier. On voudrait fabriquer, c'est-à-dire une société de voisinage, un voisinage, une socialisation de voisinage, un tissu social. Et donc, on met en œuvre des dispositifs qui visent à développer ça. Ce que, au même moment, d'ailleurs, on étudie dans des monographies de quartiers populaires anciens où on suppose que ça a existé et que ça a fonctionné.
Et on tente effectivement de l'adapter ou le plaqué sur ces villes nouvelles, Loïc Vadelorge?
Oui, absolument. Alors, ceci dit, ce qui est étonnant, c'est que, à ma connaissance, il n'y a pas eu de connexion entre les travaux des historiens. On parlait tout à l'heure de Burdi sur le soleil de Saint-Étienne. À ma connaissance, ça ne perfuse pas. C'est-à-dire que
ça n'a pas nourri la réflexion, c'est ce que vous voulez dire.
Ça n'a pas nourri la réflexion. Les aménageurs, en fait, qui lisent à ce moment-là les travaux des sciences sociales, vont plutôt se tourner vers des historiens patentés et des historiens, paradoxalement, du Moyen Âge, comme Georges Duby ou comme Jacques Le Goff, qui en fait vont publier des réflexions assez générales en fait sur la ville, sur les sociabilités urbaines. Et ces réflexions, on les trouve en fait dans les archives de l'équipement.
C'est extraordinaire, ça veut dire que c'est Duby et Le Goff ont servi de guide à ceux qui construisaient les villes nouvelles, en partie.
Alors guide,
d'inspiration peut-être.
Voilà. Inspiration, de toute évidence, oui, parce que Charlotte Worms avait tout à fait raison de le dire. Dans certains cas, on a essayé d'inventer le quartier, et on l'a fait sciemment, c'était tout à fait revendiqué, parce qu'on s'est aperçu que l'un des grands problèmes des grands ensembles, de la première génération des grands ensembles, c'est que justement la sociabilité avait du mal à s'y établir. Et donc, les responsables des villes nouvelles, 10 ou 15 ans après la période de Sudreau, ces responsables ont essayé effectivement de fabriquer du quartier et de fabriquer du lien social, de la mixité sociale à travers le quartier. Et donc, ils ont pour cela bien interrogé un peu ce qui pouvait faire la réussite de quartiers qui, pour eux, étaient modèles, c'est-à-dire des quartiers de villes anciennes en Italie ou en France. Et par exemple, dans le cas de la ville nouvelle du Vaudreuil en Haute-Normandie, l'équipe qui a fabriqué le Vaudreuil est allée enquêter sur la manière dont fonctionnait la sociabilité à Rouen dans le quartier Martainville, c'est-à-dire un quartier qui avait été tout à fait préservé de la rénovation urbaine. Et donc, on a essayé ensuite de transposer un certain nombre de règles pour pouvoir, en fait, réaliser ce quartier. Mmh. Et donc, parmi ces mobilisations, il y a eu, effectivement, le travail de Le Goff et puis le travail de Duby. Duby a accompagné, à un moment donné, l'histoire des villes nouvelles, puisque on a mis beaucoup l'accent sur l'art public, l'art dans l'espace public, toujours pour essayer de faire que ces quartiers fonctionnent bien. Et Georges Duby, donc, sur la fin de sa carrière, avait participé à une exposition et un colloque sur l'art dans les villes nouvelles. Voilà, tout à fait étonnant.
Victor Massé-Lépiné.
Oui, mais j'aurais une question pour tous les deux, Charlotte Worms et Loïc Vadelorge, sur la terminologie. Je voudrais savoir quelle attention vous portez l'un et l'autre au glissement, j'allais dire sémique, des termes, par exemple, de quartier. Loïc Vadelorge, vous avez étudié les grands ensembles. J'ai découvert en vous lisant qu'il y a eu une confusion entre grands ensembles et villes nouvelles, enfin que villes nouvelles a peu à peu recouvert le terme de grands ensembles. Toutes ces choses sur les mots qu'on emploie veulent dire quelque chose. Comment est-ce que les historiens que vous êtes appréhendez ces phénomènes-là? Je précise par exemple que ce matin, un auditeur nous a envoyé une espèce de truc promotionnel pour la création d'un quartier complètement fait par des promoteurs à Marseille qui s'appelle le 112e village de Marseille. Donc un quartier est un village, et quartier aujourd'hui ça a un sens peut-être péjoratif. Pour le dire vite, comment est-ce que vous voyez ces phénomènes de glissement de sens?
Loïc Vadelorge d'abord, et puis brièvement, et puis Charlotte Worms.
Donc, très clairement, ce sont des objets d'étude, c'est-à-dire que, effectivement, dénommer un quartier, parler d'un quartier plutôt que d'autre chose, c'est quelque chose sur lequel on travaille. À 50 ans en Yvelines, par exemple, le quartier centre, ça, à un moment donné, failli s'appeler le cœur de ville, et il y a eu tout un débat autour de ça, qui a délivré quantité d'archives. Donc, on travaille effectivement dessus. On prend pas ce terme de quartier de manière évidente, et l'un des enjeux de la recherche, et on le voit à travers les monographies dont on a parlé aujourd'hui, c'est bien au départ de délimiter le quartier et de savoir à quel moment en fait ce quartier va être dénommé, qu'est-ce que signifie sa dénomination, qui le dénomme ainsi et comment tout ça va pouvoir évoluer.
Charlotte Worms.
Bon, évidemment les mots sont aussi des faits, enfin les dénominations sont aussi des faits et méritent d'être étudiées et je crois que c'est... la terminologie et la nomenclature sont des objets d'étude évidemment pour toutes les sciences sociales. Je renvoie quand même au livre que moi je trouve fantastique, L'aventure des mots de la ville, co-dirigé par toute une équipe dont Christian Topalov, qui justement fait l'histoire des usages de ces mots et qui montre comment les mots se chargent au cours de leur histoire c'est une évidence, mais le document se charge au cours de leur histoire de tout un tas de connotations qui après colorent les nouveaux usages qu'on en fait. Et quand les pouvoirs publics choisissent, par exemple, je donne juste cet exemple parce qu'il fonctionne très bien, le terme de zone pour les zones à urbaniser en priorité ou les zones, etc., c'était peut-être pas un très bon choix étant donné la connotation, la charge de ce mot symbolique. La charge symbolique de ce mot qui remonte donc à la zone parisienne.
Vous travaillez maintenant, Charlotte Worms, sur un autre type, pourrait-on dire, de quartier urbain, sur les bidonvilles sous Franco. Qu'est-ce que ça dit de la continuité de votre propre travail en étant parti de la Prosperidad de Madrid entre 1860 et 1936 et jusqu'à ces bidonvilles sous Franco, et en particulier de la relation de l'État à l'individu et de l'individu à l'État à travers ces bidonvilles?
Alors, sur le mot, il y a beaucoup à dire, puisque bon, le mot bidonville est un mot français, donc le terme espagnol, c'est chabolas, et l'apparition du mot, le nouvel usage de ce mot dans le sens de baraque, on peut en suivre la chronologie, et on peut en faire l'histoire, je l'ai fait d'ailleurs, dans un article, et on voit, ça donne un indice sur le fait que cette réalité est une réalité en partie, comment dire, que la réalité de ce type de quartier n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les chabolas sous Franco à Madrid sont la même chose que les quartiers comme ceux de la Prosperidad, c'est-à-dire des lotissements non viabilisés, autoconstruits, voilà, dans un cadre juridique plus ou moins, enfin comment dire, très lâche ou hors du cadre juridique, mais le développement, l'extension des domaines d'intervention de l'État et le développement de l'urbanisme, d'une réglementation, du droit et de la réglementation
urbaine,
le relègue hors du droit et petit à petit, cette question devient un problème. Donc, cet premier élément de continuité est là. Le deuxième élément de continuité, c'est alors... Voilà, on n'est pas revenu, évidemment, on peut pas tout dire sur les choses qui m'avaient intéressé dans mon laboratoire de la Prosperidad. Une des choses qui m'avait intéressé, c'est que ce quartier qui apparaissait comme en marge, comme une sorte de raté d'un plan, de réalité tolérée, faute, enfin, comment dire, auquel les pouvoirs publics ne faisaient rien et qui échappait aux pouvoirs publics, n'échappaient pas du tout au pouvoir public, c'est-à-dire qu'elles étaient l'objet d'un contrôle, d'un contrôle qui passait par des règles, mais des règles qui n'étaient pas écrites. Et ce quartier était même, enfin, ces quartiers étaient maintenus dans cette précarité juridique par les pouvoirs publics. C'était pour eux un mode de gouvernement qui rend. Alors, j'essaye d'aller très très vite. Ça empêche. C'est-à-dire qu'il s'agissait à la fois de ne pas consolider, de ne pas donner des droits à ce quartier, à ces quartiers, à ses habitants, et d'autre part, ça laissait la place au pouvoir discrétionnaire
des autorités.
Des autorités.
Voilà. Oui, et c'est ce sur lequel vous travaillez, ce sur quoi vous travaillez autour des bidonvilles sous Franco. Justement.
Qui m'intéresse maintenant de la relation entre l'État et les individus, ces travailleurs migrants pauvres qui sont ceux qui peuplent ces quartiers. C'est donc cette relation administrative qui m'intéresse actuellement.
Merci beaucoup, Charlotte Vamps. Je rappelle que votre livre Bâtisseur de banlieue à Madrid, Le quartier de la Prosperidad, est publié chez les excellentes éditions Créafis qui font un travail remarquable d'édition, justement, de tous ces travaux. On peut citer La Cité de l'Étoile à Bobigny sous la direction de Richard Klein. On peut citer évidemment votre livre, Loïc Vadelorge, Retour sur les villes nouvelles, une histoire urbaine du XXe siècle qui a été publié il y a 2 ans, je crois, toujours chez Créafis. Et puis les travaux pionniers d'Annie Fourcault, comme La banlieue en morceaux, ou d'autres livres de ce type-là, tous chez Créafis. Merci Victor Massé de l'Épinay de nous avoir accompagnés toute cette semaine. Merci à vous Charlotte Vance, merci à nos confrères de Rouen qui ont accueilli dans leur studio Loïc Vadelorge, et merci à vous Loïc Vadelorge. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marseille. Nous avions la chance d'avoir avec nous Emmanuel Morse d'Incan à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Et bien entendu, si vous voulez l'écouter cette émission, sachez que désormais, elle est écoutable à l'infini. Il n'y a plus de limite de temps sur le site de la Fabrique de l'Histoire pour les émissions qui ont commencé depuis le début de cette semaine, et le nouveau site que vous pouvez aller voir, critiquer également, parce qu'il y a sûrement des choses qui ne marchent pas et vous ne vous gênez pas pour le dire. Et donc, effectivement, vous pouvez également podcaster les émissions et laisser des commentaires. Merci encore.